Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien, avec Thomas Etier.
Bonjour, ici Thomas Etier, journaliste pour Média Ténois. Bienvenue à Territoire d'info, votre émission hebdomadaire sur l'actualité des territoires du Nord-Ouest et du Grand Nord canadien. Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine. C'est officiel, les résidents francophones, francophiles et franco-curieux de l'ensemble du Slave Sud et du Dead Show ont maintenant leur association. Rassemblée à l'École Boréale dans le cadre de son Assemblée générale annuelle, l'équipe de la nouvelle Association franco-ténoise du Sud et de l'Ouest a inauguré le 26 février l'élargissement de son mandat. L'association que l'on connaissait depuis 1999 comme l'Association franco-culturelle de Hay River se prépare présentement à la levée imminente des restrictions sanitaires, comme l'explique la présidente Christine Civray.
Je sais qu'on a des vraiment beaux plans en vue. On a des plans de spectacles d'envergure aussi, soit avec les Hay Days et aussi pour la Saint-Jean. Donc, on vous laisse juste ça. On dit pas plus, mais c'est ça qui s'en vient. On s'attend d'avoir des artistes qui viennent en présentiel. Aussi que Hay River, que ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas eu ici. Puis aussi, c'est ça, on veut organiser des activités à Fort Smith aux 2 mois. Ou dans le Decho, à tous les 2 mois.
L'association s'acquittera également, à partir de ce printemps, d'un nouveau mandat jeunesse, assurant ainsi un service auparavant déployé à Yellowknife par la Fédération franco-ténoise. Cette nouvelle responsabilité permet, pour la première fois de l'histoire de l'association, l'embauche d'une deuxième employée, attendue pour avril.
Tu sais, je sais, en étant aussi une enseignante à l'École Boréale, que plusieurs jeunes veulent s'impliquer dans la francophonie. Donc, je pense que ça va être juste bénéfique pour nos régions.
Règle générale, selon Mme Civray, l'AFTSO devra sortir d'une certaine zone de confort et profiter de la levée de l'état d'urgence sanitaire pour voyager.
Je crois que la meilleure chose, c'est d'envoyer les gens là, en présentiel aussi, avec les règles sanitaires qui vont lever. Je pense que ça va nous aider à vraiment aller connecter de nouveau avec les communautés. C'est important aussi, c'est ça, d'aller voir les services aussi, puis d'aller voir les gens qui sont pas nécessairement non plus dans les écoles, mais aussi à l'extérieur de nos petits nids francophones qu'on a déjà d'établis, mais d'aller plus loin que ça.
Malgré une longue période limitée en grande partie au rassemblement virtuel, l'équipe se félicite d'être parvenue à rassembler un grand nombre de résidents durant l'année 2020-2021. L'AFCHR a organisé 71 activités durant cette période avec l'aide de 18 partenaires pour atteindre 678 participants au total. Appuyé par plusieurs activités organisées en ligne, le rapport présenté dans le cadre de cette dernière Assemblée générale couvre la période se terminant en mars 2021. L'AFTSO serait aujourd'hui en bonne posture financière pour entamer sa sortie de pandémie. Pour le dernier exercice, les états financiers affichent des surplus de 21 000 $. À pareille date l'année précédente, les surplus s'élevaient à 3 500 $. Le revenu brut de l'exercice 2020-2021 s'élève à 187 136 $. Il s'agit là d'un bond de près de 30 000 $ par rapport à l'année précédente. Cette hausse marquée des revenus s'expliquerait notamment par la reprise à l'été 2021 du service de camp de jour de l'AFCHR, qui a dû être annulé en 2020 en raison de retard dans la demande de financement. L'association a également récupéré en 2021 un montant de 6 000 $ qui avait été temporairement confié à la Fédération franco-ténoise après la dissolution de l'Association des francophones de Fort Smith. Les dépenses de l'association s'élèvent à environ 166 000 $ pour ce dernier exercice financier. Les familles des territoires du Nord-Ouest auront droit dès cet hiver à une réduction de 50 % en moyenne des frais de garde pour les enfants de 5 ans et moins qui fréquentent des services de garde agréés. Cette mesure est incluse à un accord qui a été signé en décembre 2021 entre le gouvernement des TNO et le gouvernement fédéral.
Northwest Territories is about 9 or 10 months ahead of schedule in terms of this fee reduction.
L'annonce a été faite le 3 mars en conférence de presse par la ministre fédérale de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould. Selon elle, le GTNO a été en mesure de mettre cette mesure de l'avant environ 10 mois plus tôt que prévu. Un remboursement rétroactif sera versé pour les services de garde agréés qui ont été offerts depuis janvier 2022.
Families in the Northwest Territories could save up to $4,950 per child by the end of 2022.
Selon la ministre, chaque famille pourra économiser jusqu'à $4,950 par enfant d'ici la fin de l'année 2022. Cette annonce était accompagnée du dévoilement par le gouvernement des TNO de la stratégie 2030 sur l'éducation et la garde des jeunes enfants. Cette stratégie détaille les engagements qui ont été pris dans le cadre de l'accord sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants de 2021 à 2026, qui a été signé en décembre 2021 avec le gouvernement fédéral. Le tout vise notamment à réduire les frais de services de garde à travers le territoire, à créer de nouvelles places et à accroître l'offre de programmes de formation. Dans le cadre de cet accord, le GTNO s'engage à ce que les familles paient en moyenne 10 $ par jour d'ici 2026 pour des services de garde agréés pour les enfants de 5 ans et moins. À l'heure actuelle, le coût moyen s'élève à 38 $ par jour. La stratégie inclut la création d'au moins 300 nouvelles places d'ici 2026 dans les services agréés d'éducation et de garde des jeunes enfants. La priorité sera accordée aux collectivités qui ne disposent toujours pas de ces services pour les enfants de moins de 3 ans, selon ce qu'on peut lire dans une version abrégée de la stratégie. Cette stratégie inclut également un travail de collaboration avec les gouvernements autochtones et les collectivités qui visera, lit-on, à créer un système qui soit adapté aux cultures et aux langues autochtones et bien ancré dans celles-ci. Le gouvernement s'engage également à augmenter les salaires des éducatrices et éducateurs de la petite enfance d'au moins 30 % d'ici 2026 et de 60 % d'ici 2030. Sur le plan de la formation, le document fait mention d'efforts axés sur la francophonie sans toutefois avancer d'engagement. Nous examinerons les possibilités d'offrir des programmes aux éducateurs francophones, peut-on lire. Le gouvernement fédéral s'est engagé en décembre 2021 à investir 64 millions dans le système d'éducation et de garde de jeunes enfants des territoires du Nord-Ouest d'ici 2026. La contribution du gouvernement territorial s'élève à 50 millions pour un investissement total d'ici 2026 de 114 millions. Appelé à commenter la situation actuelle, le ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, R.J. Simpson, parle d'un manque d'infrastructures et de main-d'œuvre.
There's not enough spaces and there's not enough staff, which makes it difficult for non-profit organizations and indigenous governments to keep childcare centers open.
Il n'y a pas assez d'espace et pas assez de personnel, résume le ministre Simpson. Il est alors plus difficile pour les organismes à but non lucratif et les gouvernements autochtones de garder leurs centres de la petite enfance ouverts. L'attaque de l'armée russe en Ukraine occupe les esprits à travers le monde. Les territoires du Nord-Ouest ne font pas exception. L'enjeu a été soulevé à l'Assemblée législative ce jeudi 3 mars. Pour faire le point sur la situation, j'accueille Lambert Barrault-Guinet, journaliste à Média Ténois. Bonjour Lambert.
Bonjour Thomas.
Lambert, la première ministre Caroline Cochrane a été interrogée cette semaine en chambre à propos de la proximité de l'Arctique avec la Russie.
Effectivement Thomas, la députée de la circonscription d'Inuvik Twin Lakes, Lisa Semler, s'est en fait simplement interrogée sur les risques que la situation internationale pouvait faire courir sur les régions arctiques au Canada et sur les collectivités du Nord, comme Inuvik par exemple en partie. La question est intéressante et importante, surtout au vu des enjeux actuels et futurs de l'Arctique et les relations que les deux pays vont devoir entretenir et maintenir.
Et Lambert, la première ministre a fait savoir à l'Assemblée que des discussions sont en cours avec ont été entamées avec le premier ministre Justin Trudeau.
Alors effectivement, Thomas, elle a mentionné que ses interrogations sur l'Arctique n'étaient pas infondées et qu'elle avait, conjointement avec les premiers ministres du Yukon et du Nunavut, pris la décision d'écrire au premier ministre Justin Trudeau pour réclamer une discussion sur ce sujet. Comme elle l'a expliqué ce jeudi après-midi 3 mars, la région de l'Arctique est vraiment une région dont la défense et l'intérêt stratégique sont primordiaux pour le Canada et pour les différentes alliances dont il fait partie, comme celle de l'OTAN. Elle a assuré, notamment en citant la force opérationnelle interarmée du Nord, que l'intégrité du territoire était maintenue, mais qu'il fallait rester vigilant.
Donc, en bref, la première ministre s'est montrée rassurante. La question tombe évidemment à point avec l'actualité qui occupe beaucoup les esprits cette semaine. Certains événements plus proches qui viennent nous rappeler la situation. On pense notamment à un avion qui a atterri à Yellowknife cette semaine, Lambert.
Ah, effectivement, et ça a été évoqué par la députée Semmler à l'Assemblée cet après-midi. Cette arrestation s'est produite mardi 1er mars à l'aéroport de Yellowknife. On ne connaît pas encore tous les détails, mais il semblerait qu'un jet privé a atterri à l'aéroport et a été interdit de décoller. Deux de ses passagers seraient des citoyens russes, ce qui aurait posé et ce qui poserait toujours la question de l'autorisation pour cet avion de voler dans l'espace aérien canadien, qui est censé être fermé aux avions appartenant ou volant pour des compagnies russes depuis le 27 février 2022. Alors, l'avion serait immatriculé en Autriche et aurait décollé de Genève en Suisse, et il appartiendrait à un riche homme d'affaires et aventurier russe qui serait actuellement en train de préparer une expédition autour du monde. Son passage dans le nord canadien serait une étape de la préparation de son voyage qui serait prévu l'année prochaine et relierait les deux pôles par une grande boucle qui passerait, comme on vient de l'évoquer, par la capitale des TNO. Voici donc pourquoi son avion se retrouverait ici, et lui aussi se retrouverait ici à Yellowknife. Donc la première ministre Karen Cochrane a bien pris le temps, après la série de questions de la députée Lisa Semmler, de préciser sa position et je cite « Les civils ne sont pas une menace. Nous allons continuer de recevoir des touristes, des chercheurs, des explorateurs et même des familles russes qui résident au TNO. Et nous avons tous regardé les informations et de nombreuses personnes russes n'aiment pas non plus ce qui se passe en Ukraine. Il ne faut donc pas blâmer tout le monde. »
Merci Lambert. Vous restez avec nous. L'actualité autour du conflit en Ukraine est clairement très dense ces derniers jours. Vous avez, dans le dernier numéro du journal L'Aquilon, pris le temps de lister quelques sources d'informations fiables pour nos lecteurs. Pouvez-vous expliquer rapidement pourquoi et quelles sont ces sources?
Effectivement, Thomas, comme dans toutes les situations où l'actualité est très importante et très dense, produite quasiment à la minute près, il est très facile de diffuser, souvent sans le vouloir, de fausses informations. Ça peut être une photo, une vidéo ou un article qui nous surprend et que l'on souhaite partager avec nos proches ou nos amis. Et parfois, et plus souvent qu'on le pense, ces contenus ne sont pas très fiables. Ce sont des images prises il y a plusieurs années ou des articles qui racontent des choses fausses. Et la rapidité avec laquelle ils sont produits et partagés fait qu'on ne fait pas forcément attention. Le premier rempart contre ça, eh bien, c'est de prêter attention aux endroits d'où l'on tire nos informations. Et les principales sources fiables, ça reste celles des médias où travaillent des journalistes professionnels et dont les informations sont réputées, factuelles et donc fiables. Si vous souhaitez vous informer en temps réel ou presque, vous pouvez vous tourner vers les grands réseaux médiatiques tels que CBC ou Radio Canada, la CNN ou la BBC en anglais. Ces sites d'information ne sont pas toujours irréprochables, personne ne peut vraiment l'être, mais leur réputation est établie et le traitement de l'information qu'ils font reste rigoureux et professionnel. D'autres sources sont également intéressantes, notamment sur les réseaux sociaux, et je vous invite pour ça à consulter la petite liste présentée dans le journal L'Aquilon. En version numérique, vous aurez directement accès au lien en cliquant sur les pages PDF.
Lambert Barrault-Guinet, merci beaucoup.
Merci Thomas.
Le conseil municipal de Yellowknife a voté ce lundi 28 février en faveur de l'imposition d'un blâme public à l'endroit du conseiller municipal Nils Kange. Les membres du conseil ont ainsi voté en faveur de la recommandation du commissaire à l'éthique de Yellowknife qui a reconnu le conseiller Kange coupable d'enfreinte au code de conduite du conseil municipal. Seul le conseiller Steve Payne a voté contre cette recommandation. Le conseiller Nils Kange a généré la controverse à l'automne 2021 en émettant deux comparaisons qui ont été jugées racistes, et ce, à environ un mois d'intervalle. Le 27 septembre, M. Kange a comparé le sort des petites entreprises de Yellowknife, affectées par la pandémie, à celui des victimes de la rafle des années 60 et des pensionnats autochtones. Le 1er novembre, le conseiller a comparé le système de preuve de vaccination qui serait imposé aux jeunes de moins de 18 ans à l'interdiction pour les personnes noires de s'asseoir à l'avant d'un autobus. Cette politique ségrégationniste a été imposée dans certaines villes d'Amérique du Nord jusque dans les années 60.
In both cases, Councillor Kange has apologized and recognized that his statements were wrong.
La mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty, a souligné que le conseiller a présenté ses excuses après avoir émis ses commentaires et reconnu qu'ils étaient inappropriés.
The comments, while not intended to be racist, present a casual racism that cannot be tolerated by the city of Yellowknife.
Or, bien que ces commentaires n'étaient pas intentionnellement racistes, ils représentent une forme de racisme désinvolte qui ne saurait être tolérée à la municipalité de Yellowknife.
I do feel that a censure is an important statement by council that sets the standard for our debates that we all need to strive to achieve and hold each other accountable for and what our institution stands for. So for that reason, I'm bringing the motion forward.
Il m'apparaît qu'un blâme public représenterait une prise de position claire du conseil municipal qui établira des standards pour nos prochains débats. La mairesse a confirmé que les membres du conseil municipal de Yellowknife suivront ce printemps une formation de sensibilisation aux réalités culturelles autochtones.
The Financial Management Board recently approved a labor market supplement policy to enhance our ability to recruit and retain positions identified as difficult to fill.
La ministre de la Santé et des Services sociaux, Julie Green, a évoqué cette situation dans le cadre d'une déclaration à l'Assemblée législative portant sur les efforts de recrutement et de rétention de personnel de soins de santé au territoire du Nord-Ouest. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a récemment demandé d'avoir recours à la politique de complément au marché du travail inscrite à la convention collective, dans le but d'accroître sa capacité de recrutement et de rétention dans certains postes jugés difficiles à combler. Selon cette politique, le gouvernement doit d'abord faire approuver ce type de prime salariale par le syndicat des travailleuses et travailleurs du Nord.
And unfortunately, the approach proposed was not agreed to.
Malheureusement, indique la ministre Green, l'approche proposée n'a pas été acceptée.
While I'm disappointed, I want the public and healthcare workers to know that we will continue to engage with the UNW on other ways to support the recruitment and retention of healthcare professionals.
Bien que je sois déçu, je veux que le public et que les travailleurs de la santé sachent que nous allons poursuivre les échanges avec le syndicat pour trouver d'autres façons d'appuyer le recrutement et la rétention de professionnels de la santé. Selon le syndicat, l'offre du gouvernement aurait été rejetée puisqu'elle n'incluait qu'une petite portion des infirmières de première ligne et des techniciens de laboratoire médical, selon ce qu'indique la présidente Gaila Turnstorm dans une lettre écrite en réponse aux déclarations de la ministre. On peut y lire que l'employeur a offert une gifle à tous les autres infirmières et spécialistes de soins de santé membres du syndicat qui subissent la même pression et les mêmes enjeux de pénurie de personnel. Le syndicat aurait réclamé davantage d'informations et la poursuite des discussions quant aux postes qui pourraient être inclus à ce complément au marché du travail ou quant à un complément additionnel. L'employeur a refusé de poursuivre les discussions et a retiré son offre, peut-on lire.
Can I just get an explanation of what is going on here? Why we can't pay our nurses more money?
Questionné en chambre par le député de Yellowknife Nord, Ryland Johnson, la ministre responsable des ressources humaines des TNO, Caroline Vazonek, a affirmé que cette offre était la seule qui permettait d'offrir un appui financier sans couper dans les services aux résidents.
To do that, we are running a lean operation. And so to be able to be offering any kind of additional bonuses and salary on top of the existing collective agreement during this pandemic, there's only so much we can do and it's going to have to be narrow and targeted. And that was the position we were attempting to take here.
Pour être en mesure d'ajouter tout type de primes et de salaires supplémentaires à la convention collective existante, nous menons une opération allégée, a-t-elle indiqué. Nous ne pouvons pas faire grand-chose. Nos efforts devront être limités et ciblés, et c'est la position que nous avons essayé d'adopter. Les enjeux de recrutement et de rétention de main-d'œuvre dans le système de santé ont culminé en décembre par l'interruption des services réguliers d'accouchement à l'hôpital territorial Stanton. Quelques 120 femmes ont été contraintes d'accoucher en Alberta. Les services ont repris le 22 février. Catherine Lapointe est de retour au territoire du Nord-Ouest après sa participation à la YQ 100, une course de traîneau à chiens sur une distance de 160 km. La Mosher de Fort Smith a complété le circuit avec un temps sur piste de 13 heures 47 minutes. Mon collègue Thomas Chabot en a discuté avec elle cette semaine. On écoute un extrait de l'entrevue.
La course a été vraiment très bien. On a commencé sur la première heure avec de l'overflow, de l'eau sur la piste assez intense qui me montait aux genoux. Mmh. On n'en parle pas là, pour les chiens. Là. Donc, les chiens essayaient de, de marcher sur le côté de la neige, de la piste, parce qu'il y a plus de neige, moins d'eau. Mon traîneau est calé à moitié dans l'eau. C'est assez rough, mais ils ont bien fait ça. Ils ont appris beaucoup. Puis par la suite, avec la piste, ça a vraiment bien été. Donc, je suis fière.
Et cette zone-là d'overflow, c'était combien de temps après votre départ?
Je sais pas c'était sur quelle distance, mais c'était environ une heure après qu'on soit parti.
Ah oui, ça a vraiment bien commencé votre course dans ce cas-là.
Ah ben oui!
Et justement, ça allait être ma prochaine question. Au niveau de la difficulté, est-ce qu'à certains moments, là, vous venez de parler de l'overflow, mais suite à ce début de course-là qui était un petit peu compliqué, surtout pour vos chiens et la hauteur de l'eau, est-ce qu'il y a eu d'autres moments où la difficulté était plus élevée que prévu?
Je pense que c'était plus un mental de mon côté, où les difficultés, les chiens, ils faisaient juste exceller dans tous les domaines. Là. Sincèrement, ils m'ont vraiment impressionné. Il y avait plus de côtes, donc le dénivelé était beaucoup plus haut qu'à Fort Smith, qui est très plat. Donc, ils ont pas ralenti malgré ce changement de terrain-là. C'est très surprenant. Par contre, les dépassements, lorsque nous étions sur la rivière, la piste était vraiment très étroite. Il y avait de l'eau qui paraissait, dans le fond, de la glace avec... l'eau qui coule.
Oui.
Puis si tu marchais à côté de la piste, ben on calait dans la neige là assez profond. Donc les dépassements dans ma tête là, c'était très différent, c'était très stressant. Mais je me suis fait dépasser plusieurs fois par les sœurs Tweedle. Donc ils m'ont montré qu'il y avait absolument rien à craindre. Puis moi j'ai appris beaucoup à ce moment-là.
Et justement, au niveau de votre préparation, on en avait parlé, vous vous êtes préparé physiquement, vos chiens aussi, pour la course. Mentalement, est-ce que ça a été difficile de garder la concentration tout le long?
Oui. Oui, c'est quand même très c'était compliqué pour moi, là, pas pour les chiens. Les chiens faisaient ça comme des champions. mais moi, vu que la course était majoritairement dans la nuit, donc je suis arrivée à... ma pause de 4 heures à minuit et je suis repartie sur la piste à 4 heures du matin. Donc, la deuxième moitié a été vraiment difficile puisque j'étais très, très, très fatiguée. Je m'endormais quasiment sur le traîneau, là, si c'est pas littéralement. Là. Puis, je commençais à m'imaginer à entendre des choses qui n'y avait pas, là, qui n'étaient pas là. Donc, ça, c'était compliqué pour moi. C'est la première fois que j'expérimentais ça. Puis, donc, ça me faisait penser que l'arrivée était juste l'autre bord du coin.
Quelle était l'ambiance de la course? Est-ce qu'il y avait un esprit de camaraderie entre les mocheurs?
Vraiment. Encore là, j'ai été surprise, très bien surprise, en fait. Je pense que je me suis faite des amis dans les mocheurs puis dans les bénévoles, là. Vraiment bien. Je me suis faite accueillir les bras ouverts en tant que rookie, là, mais aussi en tant que nouvelle mocheur dans la communauté, donc... les gens qui m'ont épaulé, qui m'ont donné des conseils, des pep talks aussi. c'était incroyable. Là. Même sur la piste, durant les breaks, ça arrêtait pas. Les gens venaient me voir, puis moi, j'allais voir les gens, puis on se parlait, on s'échangeait des histoires de piste, puis c'était le fun, là. C'était beau.
C'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Surtout, revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission Territoire d'info. Je suis Thomas Étier, journaliste de l'Initiative du journalisme local pour Médias Ténois. Passez une excellente fin de journée.
Territoire d'info. Une émission de l'Initiative du journalisme local financée par le Fonds canadien de la radio communautaire.